Samedi 2 mai 1925. Il nous faut presque 2 heures pour parcourir un peu moins de 5 kilomètres sur le lit glaciaire et parvenir au camp 1 avec nos charges, ce qui en dit long sur l'altitude et le froid, et peut-être sur mon piètre état physique. La neige s'est calmée à mesure que nous montions, et je suis surpris qu'il n'y en ait que 3 ou 4 centimètres sur la moraine sous nos bottes, juste assez pour rendre la marche glissante. Pour cette première étape de notre siège de l'Everest, davantage inspiré des expéditions au pôle sud que de la méthode alpine que nous envisagions au départ, me semble-t-il, même si je garde mon opinion pour moi, nous n'avons pas à escalader sur le glacier proprement dit, mais nous perdons du temps à contourner de déconcertants pinacles de glace de 15 à 20 mètres de haut. On les appelle des pénitents, et c'est vrai qu'ils ressemblent à d'immenses pèlerins en robe blanche. En plus de ces pinacles qui ont transformé la moraine en un parcours d'obstacles, il y a aussi d'innombrables bassins de neige fondue, recouverts d'une couche de glace si fine que nous la briserions et mouillerions nos bottes si nous essayions de marcher dessus. Cela semble illogique, compte tenu des températures négatives que nous subissons depuis notre arrivée à l'embouchure de la vallée du glacier du Rongbuk, mais ça fait partie de l'étrangeté de l'Everest et de ses environs. Dans les endroits où les parois des arêtes et même les murs de glace protègent la vallée des vents les plus froids, le soleil de ce début de mai peut réchauffer les lieux abrités de 10 degrés ou plus par rapport à la température au camp de base. Le pire, ce sera sur le glacier lui-même, mais en ce premier jour, nous restons à l'écart et avançons péniblement dans le fond de la moraine que les précédentes expéditions ont surnommée « l'auge ». Cela faisait un certain temps que je n'avais pas porté de charge aussi lourde. Et tandis que nous gravissons la pente, je reste à 15 mètres derrière le diacre et Reggie, afin qu'ils n'entendent pas ma respiration laborieuse et les hauts le cœur qui me saisissent par moments. Malgré mon inconfort, je comprends à présent pourquoi Mallory et Bullock ont manqué cette approche du col Nord pendant des semaines et des mois au cours de l'expédition de 1921. Ils ont découvert que l'avenue principale du premier glacier du Rongbuk menait au Lola, sous l'arête ouest de l'Everest, et devenait impraticable dans les hauteurs. Le large glacier de Karta descend des faces nord-est et est de la montagne, mais dévie brusquement, presque plein est, vers le col de l'Akpala, là où le diacre avait finalement réussi à entraîner Mallory et où l'équipe avait vu le passage vers le col nord, ce glacier du Rongbuk Est. Le glacier du Rongbuk Est n'en est pas moins un endroit difficile et piégeux, qui rejoint le glacier du Rongbuk tout en bas vers le camp de base, mais serpente vers l'est puis le nord-est, avant de s'orienter brusquement vers le nord-ouest, parallèlement au glacier de Karta, entre le camp 1 et le col nord. En 1921, l'expédition a tenté de suivre des arêtes pour atteindre la face nord, mais la plus prometteuse, qui longeait le côté oriental du glacier du Rongbuk, les a menés dans un cul-de-sac au pic nord, la montagne que nous appelons maintenant le Changtse. Durant la mousson de la fin de l'été 1921, Mallory et Bullock ont tout simplement refusé de croire qu'un glacier de cette taille puisse donner naissance à un si petit torrent, celui qui passe devant notre camp de base. Et ils n'ont cessé de tourner autour des approches septentrionales, explorant toujours plus loin vers l'est et l'ouest, cherchant le genre de torrent furieux ou de rivière digne d'un glacier s'étendant depuis la face nord ou le col nord. Ce cours d'eau n'existe pas. Le petit torrent de notre camp de base, voilà tout ce qu'offre le glacier du Rongbuk Est, comme l'a deviné le diacre en 1921, une intuition que Mallory ne lui a jamais vraiment pardonnée, à mon avis, sans parler de l'exploration de reconnaissance au lac Pala, où ils ont trouvé les empreintes de Yeti dans la neige et aperçu la bonne voie. Nous aurions perdu encore plus de temps aujourd'hui, vu que nombre de couloirs entre ces pénitents hauts comme des immeubles conduisent à des impasses, si le diacre, lors de sa sortie le soir de notre arrivée au camp de base, n'avait pas planté des baguettes de bambou dans les plaques de neige, dont nous suivons à présent la ligne irrégulière pour rester sur le bon chemin. Puisque nous ne sommes pas encore sur le glacier, ni sur des pentes émaillées de crevasses, nous ne sommes évidemment pas encordés, mais marchons en file indienne. Le diacre ouvre la voie, suivi de Reggie et de Jean-Claude, tandis que je ferme la marche à une certaine distance. Par moments, je les perds de vue au milieu des pinacles de glace, et seules les baguettes de bambou et les légères empreintes de pas laissées par mes camarades dans la fine pellicule de neige et de glace m'indiquent où tourner. Enfin, nous atteignons le camp 1 et nous débarrassons de nos sacs. Nous asseyons tous les quatre adossés à des rochers. Le site a été utilisé par les précédentes expéditions depuis 1921, et nous y retrouvons les mêmes tristes traces d'occupation qu'au camp de base, mais il a l'avantage d'être en plein soleil et à proximité d'un torrent d'eau fraîche. Nos prédécesseurs n'ont pas bâti de sangha, cependant on distingue les endroits où des rochers ont été déplacés et où le sol a été aplani pour planter les tentes. Nous allons installer la tente Whimper et une autre plus petite, déjeuner, puis repartir, annonce le diacre.
Quel était le but de tout cela, monsieur Deacon? Lui demande Reggie.
Je suis encore à bout de souffle, et même si je le voulais, je ne pourrais pas participer à la conversation. Tant mieux, puisque je n'en ai aucune envie. Jean-Claude, occupé à couper et manger une pomme, les coudes sur les genoux, respire sans difficulté. Pourtant, il ne paraît pas non plus décidé à intervenir. « Tout quoi, Lady Bromley-Montfort ?» demande le diacre, écarquillant les yeux avec une innocence feinte.
« Ce trajet inutile au camp 1 avec de lourdes charges, » réplique Reggie. « L'année dernière, Norton et Geoffrey Bruce ont laissé les porteurs transporter tout l'équipement au camp 1, 2 et 3, pendant que les alpinistes britanniques restaient au camp de base et économisaient leur énergie pour le col Nord et la suite. »
Passang et vous n'avez pas transporté votre matériel jusqu'ici en août dernier ? Demande le diacre.
Si, mais nous avions six sherpas pour nous aider. Et Passang et moi ne portions que les tentes légères ainsi qu'un minimum de nourriture.
Le diacre boit de l'eau de sa gourde et ne dit rien.
Était-ce une sorte de test ?
Insiste Reggie.
Une façon mesquine de nous mettre à l'épreuve, Jake, Jean-Claude et moi, comme si nous n'avions pas parcouru plus de 570 km pour venir jusqu'ici en franchissant des cols à 5600 mètres d'altitude. De voir si nous étions capables de remonter la vallée avec 20 kilos sur le dos.
Le diacre hausse les épaules. Reggie prend calmement une lourde conserve de pêche dans son sac à dos et la lance à la tête du diacre. Il se baisse et réussit à l'éviter, mais de justesse. La conserve rebondit sur un rocher sans exploser. Jean-Claude éclate de rire. Le diacre pointe le doigt au-dessus des têtes de Reggie et de JC en disant « Regardez. » Non seulement la neige a cessé, mais les nuages se sont dégagés au sud. Les hauteurs de l'Everest ont beau se trouver à 14 dangereux kilomètres par le glacier et le col, et presque 3 kilomètres au-dessus de nous à la verticale, l'air himalayen est si propre et clair qu'on a la sensation qu'en tendant la main, on pourrait toucher les deux premiers ressauts, parcourir du doigt le couloir de Norton et appuyer la paume sur l'aiguille enneigée au sommet. Personne ne parle. Puis Reggie vide tout le contenu de son sac à dos par terre, se lève et annonce
« Vous pouvez planter vos tentes et ranger vos conserves ici, monsieur Deacon. » Moi, je rentre au camp de base préparer les chargements des sherpas pour demain.
À son tour, JC vide son sac, et ce qu'il reste devant, une simple brise à présent, fait battre une toile de tente.
Je retourne au camp de base pour finir de montrer aux sherpas comment utiliser les crampons et les jumards.
Il s'engage dans la pente et disparaît entre les pénitents quelques minutes après Reggie, sans paraître tenté de la rattraper. Je reste assis, mon sac posé à côté de moi. « Allez-y, Jake, » me dit le diacre. « Videz-le et partez. » Il allume sa pipe. Reggie a parfaitement raison. C'était une sorte de test. Et je n'aurais pas dû vous l'imposer à tous les trois. C'est une des rares fois où je l'ai entendu utiliser le prénom de notre ami. « Je n'ai rien d'urgent à faire au camp de base, » dis-je. J'avoue que je lui en veux, non seulement de nous avoir testés lors de nos premiers jours à cette altitude, mais aussi de fumer cette satanée pipe alors que je n'arrive même pas à remplir d'air mes poumons. Je vais vous aider à monter les deux tentes. Le diacre hausse de nouveau les épaules et se lève, le regard toujours braqué sur le massif de l'Everest. En m'efforçant de ne pas respirer trop bruyamment, je fouille dans le tas de matériel pour trouver la bâche de sol de la grande tente Whimper.